les jardinières.
On se retrouve pour un nouveau samedi matin ensemble chez les jardinières. Bonjour Mylène.
Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Noélie.
Et bonjour à notre invité du jour, Jordi Gonzalez. Vous êtes horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Noélie, bonjour Mylène.
Et merci d'être branché sur RJB, RTN ou RFJ, le monde végétal sous toutes ses formes. C'est l'apanage des jardinières le samedi de 7h à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Alors Jordi, on le vit un peu tous en ce moment, on est début avril, on sort d'une série de journées froides avec même des températures négatives à la nuit. Dans ce contexte un peu d'entre-deux, comment est-ce qu'un jardinier doit s'adapter concrètement? Est-ce qu'il faut freiner, attendre ou au contraire anticiper et avancer?
Alors il faut rappeler avant tout que ces températures négatives de la nuit, elles sont assez normales pour la saison. Ce qui n'était pas normal, c'était plutôt les températures très clémentes qu'on a eues au mois de février. Ensuite, pour le jardinier, pour s'adapter, c'est un peu compliqué en soi. Ben, tout ce qui a été déjà semé, qui a déjà germé, on ne peut pas vraiment freiner. On ne peut pas vraiment attendre. Il faut continuer comme si de rien n'était. Et puis, on peut juste s'adapter en protégeant, en mettant à l'intérieur, en essayant de garder ces plantons au chaud et dans des conditions optimales pour qu'ils puissent pousser.
Merci Jordi, vous restez avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes nos questions, mais aussi celles de nos auditrices et auditeurs. Vous pourrez nous appeler en fin d'heure et parler en direct avec notre invité. Ça se passera bien sûr au 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, suivi de votre message et de votre question et votre nom. Vous nous envoyez tout ça au 939 et vous pouvez aussi poser votre question via le formulaire sur notre site avec la possibilité de joindre une photo.
Et dans quelques minutes, on entre dans le cœur du sujet avec une question que beaucoup se posent en ce moment, malgré le froid. Qu'est-ce qu'on peut vraiment semer maintenant sans prendre de risques? Réponse dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie de Jordi Gonzalez, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et ce matin, on trépigne. On est début avril, c'est souvent le moment où l'envie de semer devient très forte. Mais avec le froid qu'on connaît en cette période, il faut peut-être rester prudent.
Jordi, on va commencer simplement. Aujourd'hui, chez nous, quels sont les semis que l'on peut faire sans trop de stress, même encore avec des nuits un peu fraîches?
Alors, on peut semer tout ce qui est salade, tout ce qui est choux, betteraves, bêtes, etc. Ça, c'est des plants, enfin des légumes qui sont pas trop sensibles au froid. Donc, une fois qu'ils auront germé, on pourra les sortir dehors. Ils peuvent même supporter des petits gels au sol. Alors, faut pas que la plante, elle gèle parce que sinon, elle va partir en floraison directement. Et du coup, on peut pas manger notre salade ou notre chou, ce qui est un peu dommage. Mais on peut déjà les semer et à l'arrivée des plus beaux jours, on va dire, on va les mettre en terre et puis protéger si besoin.
Jordi, il y a des plantes qu'on a envie de semer dès les premiers beaux jours, comme les tomates, les courgettes, le basilic. Mais si on les sème maintenant, alors que les conditions ne sont pas encore stables, qu'est-ce qu'on risque concrètement?
Alors pour le semis de tomates et basilic, je dirais c'est plus ou moins la bonne période pour les priver. Nous, on a commencé bien avant, mais si on n'a pas de structure pour les garder en serre, enfin je dirais en serre chauffée, c'est pas trop possible de commencer avant ça. Du coup, alors on peut les semer, de toute façon on va prendre des risques. Maintenant, ça sera à l'intérieur au début, après il faut faire le jeu de sortir pendant la journée, rentrer pendant la nuit, sortir pendant la journée. Ça dépend aussi de la température de la nuit, si ça ne gèle pas, il n'y a pas besoin de les rentrer. Après pour le basilic c'est un petit peu différent, il supporte un peu moins bien le froid. Donc lui, il faudrait plutôt le garder à l'intérieur, contre une fenêtre bien lumineuse et normalement ça devrait bien se passer.
Alors, vous avez parlé des tomates qu'on peut semer à l'intérieur en cette période. Est-ce qu'il y a d'autres légumes qu'on peut déjà semer en intérieur?
Alors, je dirais que pour les courgettes, typiquement, ce serait un peu vite. On pourrait semer de l'aubergine. Enfin, on a parlé avant des choux et des salades. Ensuite, il y a tout ce qui est fleurs de saison d'été. Ça, c'est des choses qui sont possibles de semer maintenant. Et puis, on va du coup prendre un petit peu d'avance sur ce qui se ferait dans la nature normalement, quoi.
Et à quoi il faut faire particulièrement attention quand on fait nos semis en intérieur?
Alors, à l'intérieur, le problème qu'on a dans nos maisons, c'est qu'il fait sec, chaud et qu'il n'y a pas assez de lumière pour les plantes. Même si nous, on perçoit beaucoup de lumière, on a un appartement très lumineux. En fait, les plantes perçoivent la lumière un petit peu différemment. Il faut savoir qu'on coupe par deux la lumière, enfin les lumens, à chaque fois qu'on fait un pas derrière la fenêtre. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut mettre ses semis à l'intérieur. Il faut bien garder cette terre humide pour que les semis puissent germer. Et une fois qu'ils ont germé, eh ben, il va falloir justement faire ce balai de les sortir à l'extérieur pour qu'ils puissent prendre la lumière et pas qu'ils filent et qu'ils deviennent assez moches en soi.
Ben justement, Jordi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un semis qui démarre bien et puis un semis qui démarre mal?
Alors, y a des signes, hein, on voit, une fois, au moment où ça germe, en fait, il y a besoin d'un petit peu d'engrais dans la terre. Donc si par exemple le semis il a des feuilles très pâlottes, voire même jaunes, c'est un semis qui va assez vite végéter. Là, il faut rajouter un petit peu d'engrais, mais dans des doses très faibles, hein, parce que c'est des petites plantes encore, elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Et puis après, on peut regarder si le semis file, ben, c'est pas très bon, donc il faudrait peut-être recommencer dans certains cas. Et puis on voit en général quand la plante elle va bien.
Et puis il y a un classique, Jordi, on sème souvent avec enthousiasme, parfois un peu trop. Quelles sont les conséquences si on sème trop dense ou alors trop serré ?
Alors de nouveau, on aura un problème de lumière. Maintenant, semer trop dense, au début, c'est pas très grave. En soi, on peut semer très dense et puis après repiquer ou enlever une partie. Typiquement pour les carottes, on va faire ça. On va semer assez dense, puis après, on va aller éclaircir nos semis de carottes pour qu'il ne reste plus qu'une carotte à peu près tous les 5-10 cm.
Merci Jordi pour ces premières bases. On notera qu'il faut faire des choix et ne pas se précipiter. Après la musique, on va passer à la pratique. Comment réussir ses semis concrètement, du terreau jusqu'à l'arrosage.
7h, 8h, les jardinières.
Chez les jardinières, ce matin, on est en compagnie de Jordi Gonzalez, horticulteur à Neuchâtel, et nous parlons semis. Jordi, une fois qu'on a choisi de semer et quand le faire, il reste encore une grande étape, bien réussir ses semis.
Et ça commence souvent par le terreau. On voit un peu de tout en magasin. Est-ce que tous les terreaux conviennent ou est-ce que le choix du substrat peut vraiment faire la différence dès les premiers jours aujourd'hui ?
Non, alors le choix du substrat, il peut quand même bien faire la différence dans ces cas-là. On va choisir un substrat qui sera très fin. Souvent, ça sera terreau à semis dans les magasins. Il faut choisir absolument celui-là parce qu'il est beaucoup plus fin que les autres terreaux. Et du coup, les graines elles vont pouvoir toucher la terre sur à peu près toutes les surfaces, pouvoir pomper l'humidité de ce terreau et bien germer. Avec les autres, elles ont des chances de germer, mais elles ont moins de chances de germer. Une autre chose, c'est que dans les autres terreaux, on va souvent avoir beaucoup plus d'engrais aussi. Et du coup, ben, comme on l'a dit avant, ces plantes n'ont pas besoin d'énormément d'engrais au départ.
La profondeur de semis, c'est une question qui revient tout le temps. On a souvent peur d'enterrer trop profond, pas assez. Est-ce qu'il y a une règle simple, facile à retenir pour éviter de compromettre cette germination ?
Alors oui. La règle assez simple, c'est d'enterrer le double de la taille de la graine. Alors attention, pour les graines plates comme les salades, on va pas prendre la taille de la graine, la longueur de la graine, on va plutôt prendre la largeur de la graine parce qu'elle va jamais se déposer, elle va jamais se planter dans la terre, on va la déposer en général à plat. Donc il faut très légèrement mettre du terreau par-dessus. Et puis après, pour les toutes petites graines, souvent il n'y a même pas besoin de recouvrir de terreau. Là, on va juste tasser un petit peu le terreau où on a mis les graines pour qu'elles s'incorporent bien dans la terre et justement qu'elles touchent un maximum la terre.
On parle des graines. Si on prend une graine de courge qui est plutôt plate et allongée, il y a un sens pour la mettre ?
Oui, il y a un sens. Maintenant, ça va peut-être retarder la germination un tout petit peu parce qu'en fait, de toute façon, quand la racine, le premier truc à sortir, c'est la racine, elle va être attirée par la force d'attraction. Donc, elle va de toute façon descendre et la feuille, elle va de toute façon monter. Donc, en soi, oui, il y a une bonne façon de la planter, mais vous pouvez la mettre à plat, à l'envers, à l'endroit, ça va être complètement égal.
L'arrosage est aussi un point sensible hein, entre les graines qui ont besoin d'humidité pour germer et le risque de tout noyer, de tasser ou de faire pourrir. Comment trouver le bon équilibre au quotidien ?
Alors, il faut arroser, mais pas trop. Il faut attendre que la terre sèche, qu'elle se déshumidifie entre deux arrosages. Il ne faut pas qu'elle soit complètement sèche non plus parce que on perd du temps. Et puis des fois aussi le terreau, une fois qu'il est vraiment sec, il est très difficile à réhumidifier. Et puis après, il ne faut pas trop arroser non plus parce qu'effectivement, on peut faire pourrir les graines dans certains cas.
Est-ce que vous conseilleriez d'avoir un de ces pchits pour nos petits godets de semis?
Ben, c'est une bonne idée, franchement, c'est pas mal parce que aussi c'est plus fin. Effectivement, on va pas prendre l'arrosoir de 10 litres qui vient de chez Landy et puis arroser copieusement en mettant partout parce que ben, les graines, elles vont bouger, évidemment.
Et puis la lumière, Jordi, joue un rôle énorme. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On voit parfois des semis qui montent très vite, deviennent longs, fins, un peu pâles. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut corriger le tir ou c'est foutu pour eux?
Alors, dans ces cas-là, c'est un manque de lumière. Comme j'ai dit, ça arrive souvent quand on fait les semis à l'intérieur. Ça arrive très typiquement sur les tomates. On se dit « Ah, je vais les semer début mars ». Et puis, il fait quand même encore froid dehors, donc on les garde à l'intérieur et là, pouf, ils commencent à filer. En fait, ils vont juste chercher la lumière. C'est le seul truc qu'ils font. Donc, pour pas que ça arrive, bah, il faut leur donner assez de lumière. On peut les éclairer avec des lampes UV, on peut les mettre un petit peu à l'extérieur, enfin, les rentrer-sortir. Ou alors, bah, dans les cas où, c'est déjà intervenu, si c'est un tout petit peu filé, c'est rattrapable. Sinon, il faut jeter et recommencer.
Et puis, il y a le moment où les semis commencent à prendre de la place. Comment savoir que c'est le bon moment pour repiquer et surtout comment le faire sans stresser ou abîmer les jeunes plants?
Alors, pour le bon moment pour repiquer, on va attendre que les deux premières vraies feuilles de la plante soient arrivées, parce qu'on a les cotylédons qui commencent. Elles sont en général rondes, elles ont vraiment une forme très particulière comparée aux vraies feuilles du légume, si on prend un chou par exemple. Ensuite, du coup, une fois qu'on a ces deux feuilles, on va les repiquer. Pour suivant la classe de légumes, donc les choux, on va les repiquer dans des plaques un peu plus serrées parce qu'ils ont besoin de moins de place au début. Les tomates, ce serait mieux de les repiquer en pot. Et puis après, on les mettra dans le jardin un petit peu plus tard. Le repiquage, il consiste justement à stresser les plantes pour qu'elles fassent plus de racines et puis qu'elles poussent un peu plus vite. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de façon de faire sans les stresser. Et puis après, pour ne pas les abîmer, il faut les prendre délicatement et essayer de faire ça le plus délicatement possible.
Merci beaucoup, Jordi. Ben là, on a déjà de quoi éviter pas mal d'erreurs. On fait une petite pause et puis juste après, ça sera à vous de jouer, vous qui nous écoutez, avec vos questions jardinage.
Les jardinières.
Les jardinières continuent jusqu'à 8h, toujours en compagnie de Jordi González, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Ce matin, on a pris le temps de parler des semis, de début de saison avec un contexte un peu particulier, un printemps qui s'est fait désirer, des nuits encore froides et des jardiniers qui hésitent entre se lancer ou attendre encore un peu. Jordi, on va faire une rapide checklist dans quelques minutes, juste le temps de vous rappeler comment nous joindre si vous avez des questions jardinage à nous poser.
Et vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Jordi. Nous envoyer un SMS au 939 en tapant le mot « jardin » au début du message. Ou alors nous écrire via le formulaire que vous trouvez sur notre site avec toujours la possibilité de joindre une photo si besoin.
Alors Jordi, si vous deviez faire une checklist du bon semis, ça commencerait par les graines.
Alors au niveau des graines, il faut faire attention que les graines ne soient pas périmées. En général, on le voit derrière le paquet, il y a marqué toujours une date. Elles gardent quand même un pouvoir germinatif après la date de péremption, mais ben, le plus le temps y passe, le moins elles vont germer de manière uniforme. Ensuite, il faut bien les stocker pendant l'hiver ou bien le temps qu'on a besoin de les stocker, donc au sec, au frais et à l'abri de la lumière. Et puis après, on va essayer de choisir le bon terreau, donc on le rappelle du terreau à semis assez fin, enterrer sa graine le double de la taille qu'elle fait, puis arroser copieusement peut-être la première fois, mais de manière très douce, on peut prendre un pulvérisateur ou un petit arrosoir tout fin. Et ensuite, il faut faire attention à la lumière une fois que les graines ont germé.
Et puis peut-être un petit mot sur le choix du récipient, du contenant pour faire nos semis.
Alors il va dépendre un petit peu des graines, enfin des légumes en question ou bien des plantes en question. Mais en général, on va pouvoir les semer dans des gros bacs. On peut prendre un Tupperware un petit peu cassé qu'on va percer dessous. Il y a pas mal de choses différentes, des pots de yogourt par exemple aussi qui peuvent être utiles. Et puis après, on va essayer de les séparer, de les mettre séparément ces plantons. Et là, de nouveau, on peut utiliser beaucoup de choses différentes. En général, on a beaucoup de pots à la maison qui traînent et puis on peut les utiliser pour repiquer directement à l'intérieur.
Merci Jordi pour ce rappel pour faire des bons semis. Il n'y a plus qu'à s'y mettre.
Exactement.
Et on va passer aux questions de nos auditeurs et auditrices reçues la semaine dernière avec la première qui nous vient de Sylvana de Couvet. Elle nous écrit ceci. Comment éliminer la mousse dans un jardin ? Elle étouffe le gazon et le plus naturellement possible, Jordi.
Alors, il y a des machines qui s'appellent les scarificateurs. Donc, c'est des espèces de petites griffes qui vont rentrer comme ça dans l'herbe. Alors, elles vont laisser tranquille les mottes d'herbe. Par contre, elles vont prendre avec la mousse. Ça marche un petit peu comme une tondeuse, mais voilà, c'est pour ramasser vraiment la mousse. Donc, ça, c'est le plus naturel. Sinon, après, bah, évidemment, il y a des désherbants qui existent, mais c'est pas très naturel.
Merci Jordi. On va passer à une question de Dolores de Colombier qui nous dit d'abord bonjour à vous tous. Bonjour Dolores. Ma question, que fait-on contre les punaises vertes brunes, vertes ou brunes, etc. Elles détruisent tomates, framboisiers. Elle aimerait savoir comment faire pour s'en débarrasser.
Alors, il faut regarder au printemps sous les feuilles des plantes. En général, c'est là qu'elles pondent leurs œufs. Et puis, on les reconnaît parce que ça fait des petites mosaïques qui sont très jolies, vraiment. On n'a pas du tout envie de les enlever. Il faut malheureusement enlever les feuilles et détruire ces œufs. Et puis après, plus tard dans la saison, il y a des produits de traitement qui existent en bio ou en non bio. Vous pouvez regarder chez Undermat Biocontrol. Ils ont des choses pour lutter là contre.
Merci Jordi. On a encore quelques questions pour vous. On se retrouve juste après un peu de musique.
Les jardinières.
7h42 chez les jardinières, nous sommes en compagnie de Jordi Gonzalez, ce matin horticulteur du côté de Neuchâtel. Et si vous avez des questions jardinage, c'est le moment, par exemple, de nous appeler au 0901 70 20 20, ou alors de nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin suivi d'un espace de votre question, vous nous envoyez tout ça au 939, ou alors de remplir le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, et vous pouvez même joindre une photo à votre question. Des questions d'ailleurs, on en a encore quelques-unes, Noélie.
Et oui, l'une qui nous vient de Rebecca de Glétrance. Quand pouvons-nous planter les fraisiers, Jordi ?
Alors, on peut très bien les planter maintenant, après la période idéale pour les planter. Ce serait plutôt pendant le mois de septembre. On peut aller jusqu'au mois d'octobre sans problème pour les planter, mais du coup après c'est de ces plantes vivaces qu'on peut planter quand même à plusieurs moments dans l'année, et il y a un moment qui est plus idéal que les autres.
Et puis si par exemple on les a protégés, ces fraisiers, avec de la dard ou du mulch, est-ce que c'est le moment aussi de retirer tout ça pour qu'ils repartent ?
Oui, c'est presque déjà même un peu tard. Je l'aurais fait avant. Là, les nôtres, ils ont en tout cas bien redémarré maintenant, donc c'est bien le moment d'enlever la dard.
Mais si on ne l'a pas fait, ils vont mourir.
J'espère que non.
Merci Jordi. Une question de Jean-Pierre de Basse-Cour. Est-il exact que l'on doit attendre 2 ans avant de consommer une nouvelle rhubarbe ? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent, hein, cette rhubarbe. Quand est-ce qu'on peut la manger ?
Alors oui, il faut attendre 2 ans, voire même 3 si on est assez patient, parce qu'effectivement, elle a besoin de temps, cette rhubarbe, pour pouvoir bien s'implanter. On mange les feuilles, donc on enlève la partie qui donne l'énergie à la racine pour passer l'hiver tranquillement sous terre. Du coup, ben, c'est pour ça qu'il faut un petit peu attendre. Si on attend que 2 ans, la première année, on prélève dessus, laisser quelques feuilles pour que la racine puisse reprendre l'énergie pour les années suivantes.
C'est vraiment une question pour que la plante puisse perdurer. Il n'y a pas de problème pour notre santé.
Non, il n'y aura jamais de problème pour notre santé. Mais c'est comme c'est normalement la rhubarbe, on ne devrait plus la prendre à partir de mi-juin, je crois que c'est. On peut continuer à la prendre après, il faudrait juste la manger en moins grande quantité parce qu'il y a plus d'acide oxalique dans les tiges.
Et puis une autre question d'Esther qui a joint une photo d'ailleurs. Elle nous envoie une photo d'une plante d'extérieur. Elle demande comment la récupérer puisqu'elle a... Est-ce qu'elle a mauvaise mine en fait, cette plante, Jordi ?
Elle a un peu mauvaise mine. Malheureusement, j'arrive pas à déterminer la
plante.
Décrire la photo qu'on a reçue de Esther. On voit un pot avec des petites brindilles qui ont l'air un peu sèches de sortir de ce pot. Désolée, Esther.
Il reste une petite feuille qui est jaune, malheureusement morte. Mais après, ça pourrait repartir. Moi, enfin, je sais pas quel type de plante c'est, donc je peux pas vraiment dire plus. Mais ça pourrait repartir. Il faut être patient. Il faut pas trop l'arroser pour pas faire pourrir les racines et puis attendre de voir s'il y a des signes de redépart de feuilles ou pas.
Merci beaucoup Jordi. Je propose qu'on fasse une pause musicale avant la suite des jardinières. Et puis n'hésitez pas, hein, vos questions jardinage, c'est le moment, c'est le début du printemps. On en profite. 0901 70 20 20.
Les jardinières.
Et ce matin, chez les jardinières, on a parlé semis et surtout du bon timing pour se lancer, même quand le désir de printemps presse au portillon. Alors qu'au dehors, c'est une autre chanson. Et Jordi, hein, on profite encore des quelques minutes qu'on a devant nous pour vous poser quelques questions.
Alors Jordi, si on a parlé des semis, certaines personnes n'ont pas envie ou pas le temps, pas la place, on ne juge pas d'en faire et veulent directement passer au planton. Et d'ailleurs, dans certaines jardineries, on peut déjà trouver des plantons, mais là, encore une fois, prudence.
Absolument. Par exemple, pour tout ce qui est plantons de tomates, courgettes, piments et j'en passe, on ne va pas les planter maintenant. Il faut attendre absolument, en tout cas début mai pour la plaine, et puis les Saintes-Glaces, voire même fin mai pour les montagnes châteloises ou autres. Et je sais qu'on a très envie de planter quand il fait beau et chaud. La semaine prochaine, il va faire très beau, très chaud, c'est les vacances. Mais il faut savoir qu'un coup de gel, même minime, même juste un gel au sol, ce qui peut encore très bien arriver en pleine jusqu'à, en tout cas, mi-mai, ça peut vraiment tuer, voire ralentir énormément les plants. Donc en prenant de l'avance, finalement, on va peut-être prendre du retard.
Et question un petit peu sensible pour vous, Jordi. Pour protéger nos plantes des limaces dès le printemps, comment on peut s'y prendre ?
Alors, on peut mettre ces fameux grains bleus qui tuent les limaces. On peut aussi leur donner à manger juste aux limaces. Elles vont en général s'attaquer à des plantes qui sont faibles ou vulnérables. Donc en fait, si on prend nos déchets ménagers, on s'entend de cuisine, on va pas mettre la poubelle et les couches de l'enfant sur le jardin, mais les déchets ménagers en général, on va pouvoir les étaler dans le potager et puis les limaces et escargots sont normalement censés plutôt manger ça que les plantes qui sont à côté.
Et puis il y a peut-être d'autres ravageurs qu'on pourrait prévenir déjà en ce début de saison avant de mettre les plantons.
Alors il y a les pucerons qui sont en train de se réveiller gentiment. Là on va plutôt mettre des plantes compagnes qui vont les attirer et aller dessus. On peut parler de l'absinthe, on peut parler de la capucine. La capucine c'est presque un petit peu tôt pour la semer. Ensuite, on aura toujours les mêmes ravageurs qui vont venir. Et puis là, il faut soit traiter, soit attendre, soit mettre des plantes compagnes.
Et puis Jordi, hormis les semis, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment au jardin, les gestes ou les travaux à faire en priorité ?
Alors, on peut aller cacher les œufs pour lundi déjà. C'est pas vrai. On peut préparer le jardin pour planter. On peut déjà planter un certain nombre de légumes, typiquement les salades, les choux, les betteraves, les bêtes. Il faudra juste les protéger avec un agril, comme on a dit avant, s'il vient des températures négatives. En général, ça suffit. Sous un agril, il fait 2 degrés de plus qu'à l'extérieur. Et puis... On va pouvoir aussi préparer tous les outils de jardin, les désinfecter, les sortir de l'hiver pour les utiliser après au jardin pendant toute la saison estivale.
Aujourd'hui, chez les jardinières, nous étions en compagnie de Jordi Gonzalez. Vous êtes horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. On a vu quoi semer, comment le faire correctement. Toutes vos explications seront à retrouver en podcast dans la matinée. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Jordi, et très bon week-end de Pâques.
Merci beaucoup. Merci Mylène, merci Noélie, et bon week-end de Pâques à tous.
La semaine prochaine, pour répondre à vos questions et vous donner des bonnes astuces, nous serons en compagnie de Cathieu Racine, guide de randonnée nature à Mervelier. Et vous avez bien sûr toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions en remplissant le formulaire sur notre site. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Mangez pas trop de chocolat. Hein. Et à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.